C'est pour moi vraiment un privilège d'être des vôtres et de faire partie de ce groupe-ci. Non pas que ce n'était pas un privilège de faire partie du groupe de l'autre côté hein, ce matin, mais je suis vraiment reconnaissant parce que je suis né dans une famille que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup mes parents, mais qui n'est absolument pas chrétien. En fait, on est tous un peu opposés au christianisme. Et moi, j'étais vraiment anti-chrétien. Je ne sais pas si tu as des copains comme ça qui sont dans ta classe ou dans ton environnement. Mais j'étais vraiment opposé à toutes ces choses. Et un jour, alors que j'étais probablement au mois de novembre de cette terminale, il y a un gars dans ma classe qui était un type brillant. Et il était aussi très gentil, enfin sympa quoi, cool, normal, bref. Il était bien. Et ce type-là, je ne savais pas, il allait dans une église. Et un dimanche, dans son église, il y a une vieille dame. Je ne sais pas s'il y a des vieilles dames dans ton église, mais cette dame-là, c'est le genre de personne qui faisait rien dans l'église, juste prier. Rien, quoi. Et, lol, enfin, voilà. Et, merci. Si. Je peux me permettre des choses ici que je ne peux pas faire de l'autre côté, hein, voilà. Mais, mais on est retransmis, bon, tant pis. Mais cette dame-là, elle est allée voir ce copain, elle lui a dit, Philippe, est-ce qu'il y a quelqu'un à qui tu parles de ta foi dans ta classe? Et lui, il a répondu non. Il a dit, ils s'en fichent tous, en fait. Et s'il y a un type qui est toujours contre l'évangile, et s'il y a un type qui se convertira jamais, c'est bien lui. Et cette vieille dame a lancé cette question fatidique, c'est quoi son nom? Et lui, il a répondu, Varak, Florent Varak. Et donc, quelques semaines plus tard, cette dame a prié, quelques semaines plus tard, je me suis retrouvé dans une famille parce qu'un prof nous a mis ensemble pour travailler à un devoir de maths. Je n'étais pas doué en études, c'est venu plus tard après ma conversion, mais je n'étais pas doué en études. Et lui, il était un type brillant, il a dû vraiment pas être content qu'on soit dans la même équipe pour faire un devoir de maths. Mais comme j'habitais loin, il a eu la gentillesse de m'inviter chez lui. Le repas était servi, j'ai commencé à prendre la fourchette et lorsqu'elle était entre l'assiette et puis à la bouche, j'ai entendu quelqu'un qui a dit « on va prier ». J'ai regardé, ils ont tous fermé les yeux et le père a marmonné quelque chose et moi je me suis dit « je suis où ?». J'étais embarrassé, je me suis dit « le pauvre, mon copain, le pauvre, le vrai de vrai, c'est triste ce qui lui arrive. Peut-être il vit ça tous les jours, peut-être 3 fois par jour ». Et alors ça m'a vraiment surpris parce que après le repas, alors moi j'étais tétanisé, après je sais pas quoi, mais après le repas on a beaucoup parlé et je lui ai dit mais c'est grave en fait ce qui t'arrive, c'est normal. Et il m'a dit qu'il croyait. Je lui ai dit comment est-ce qu'on peut croire quand on est un gars cool, intelligent? Enfin je veux dire pour moi les croyances étaient des... voilà. Et ce qui s'est passé c'est que... Parce que c'était un type qui était, il se moquait pas des autres, il taillait pas les autres constamment. Enfin, il avait une certaine, il y avait quelque chose chez lui. Puis en même temps, il était sportif, il faisait de la musique. Enfin, cool le gars. Je me suis pas moqué de lui. Et ça a été le début d'un chemin. Et je trouve formidable que vous soyez aujourd'hui dans une salle et qui témoigne ou démontre de votre intérêt pour Christ. Vous êtes un âge et une période extraordinaire pour avoir un impact autour de vous. Dieu veut t'utiliser, toi, pour que Jésus-Christ soit proclamé. Je suis tellement reconnaissant que ce copain a eu le courage d'afficher son drapeau et de dire « j'appartiens à Christ et il est digne d'être aimé et il est digne d'une vie ». Et j'espère que tu es fortifié dans ta foi et dans ta démarche personnelle pour pouvoir être témoin. Qui sait, un jour une vieille dame dans ton église dira « tu connais la suite ». Et voilà, cet après-midi, je sais que c'est l'heure de la digestion, c'est le moment le plus difficile, mais le concert tout à l'heure était juste top, excellent. Merci pour tous ceux qui l'ont organisé, alors peut-être maintenant tu es assez vif. Et on regarde un texte qui est assez ancien, qui a été écrit 1000 ans à peu près, hein, avant Jésus-Christ, par un homme qui avait la réputation d'être sage, mais qui a tout gâché dans sa vie. Tu es au début de ta vie. L'exhortation que je voudrais laisser par le témoignage que nous laisse cet homme, c'est « ne suis pas son chemin ». D'accord, c'est un peu bizarre, hein, mais c'est un gars qui a reçu de Dieu toute la sagesse et qui a fait des choses remarquables. Il a donné des conseils formidables, tu peux le lire ça dans le livre des Proverbes. Le problème, c'est que tous les conseils qu'il a donnés, il les a violés. Tous les conseils qu'il avait dans sa tête, il les a brisés. Et à la fin du chemin, à la fin de son parcours, il constate que c'était un échec. Et si tu crois en Jésus-Christ, si tu crois que la Bible est la parole de Dieu, écoute bien ce qu'il dit, parce que c'est un peu comme s'il te disait « surtout, ne prends pas ce chemin ». Et ce matin, dans la première session, on regardait avec l'Ecclésiaste, avec Salomon, qui est le roi qui a écrit ces lignes, que la vie, elle était super difficile en fait. Je ne sais pas si tu seras d'accord avec ça. Peut-être cet après-midi, il y a des gens, des jeunes ici qui souffrent vraiment grave, quoi. Peut-être qu'il y en a qui sont dans une telle souffrance que sans que personne le sache, ils se taillent, ils se coupent. Peut-être qu'il y en a qui sont tellement dans la souffrance qu'ils se gavent de sucre. Peut-être qu'il y en a qui sont tellement dans la souffrance qu'ils fument et que pas que du tabac. Peut-être qu'il y en a qui sont tellement dans la souffrance qu'ils font n'importe quoi au niveau internet et tout ça. Et parce que la vie, elle est super dure et qu'elle est frustrante et qu'on n'arrive pas à voir la vie qu'on voit sur internet. Enfin, à Hollywood, sur Hollywood, là-bas quoi. Eh ben, on se dit, je suis pas normal, il y a quelque chose qui me manque. Et Salomon, il nous rapporte un chemin de vie qui est incroyable. Qui est incroyable parce que peut-être il a des correspondances avec ce que toi, peut-être d'autres, enfin des amis à toi, autour de toi, des choses que des gens ont fait pour essayer de calmer la douleur. Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver quelque chose qui calme la frustration de la vie? J'ai 3 enfants que j'aime beaucoup. Ils ont 22, 20 et 18, je crois. Ça change chaque année. Hein. Et les 2 premiers se sont mariés. Et le premier s'est marié en Alaska. Sa copine est d'Alaska. Et là-bas, j'ai appris comment chasser le loup. Ça t'intéresse? Il y a 2 personnes que ça intéresse. Pour les autres, tant pis. Hein. Mais voilà comment on chasse le loup chez les Esquimaux, m'a-t-on dit. On prend un couteau, mais un vrai couteau. Hein. Un vrai couteau. Et puis, on l'embobine, de petits bouts de tissu. Et on plonge le tissu dans du sang. D'accord? S'il y en a qui vont tourner de l'œil, bougez-vous les oreilles. D'accord? C'est pas très joli ce que je vais raconter comme histoire. Et ensuite, on le plante dans la neige. Ça gèle. Donc, ça ressemble à un sorbet au sang. Ils aiment beaucoup ça là-bas. C'est l'Alaska en même temps. Hein. C'est cow-boy. Et donc, le loup, il arrive par l'odeur à lécher. Enfin, c'est un autre problème. C'est un autre problème. Le loup, il arrive et il commence à lécher la glace au sang. Et c'est super bon, la glace au sang, paraît-il, si on est loup. Et quand il a fini de la première couche, bah, petit à petit, il enlève l'autre couche. Et après, il y a quoi? Ah, il y a un couteau. Et il se coupe la langue. Mais comme il se coupe la langue, il y a un peu plus de sang qui sort, alors ça l'excite davantage et il ne réalise pas qu'il est en train de mourir. Après le repas, j'ai pensé que c'était une bonne illustration. Et tu sais quoi? Il y a beaucoup des choses de la vie que l'on utilise pour essayer d'anesthésier la souffrance, pour essayer de calmer l'angoisse, pour essayer de rompre la solitude, pour essayer d'aller au-delà de la frustration de la vie. Et c'est exactement ça. À la fin du chemin, ça te laisse exempt, vide et mort. Alors ce que je te propose, c'est qu'on fasse le parcours du témoignage en quelque sorte de Salomon. Et on va regarder tout ce qu'il a essayé pour essayer de donner de la joie à son cœur. Et je suppose que si tu es normalement constitué, ben c'est vraiment un pari, un désir de pouvoir rechercher la joie. Et le premier truc qu'il a essayé, je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde, mais il y en a d'autres peut-être où vous vous reconnaîtrez après. La première chose qu'il a essayé, c'est la connaissance. Dans le chapitre, donc je suis en fait le texte que j'ai lâché tout à l'heure. Et dans Ecclésiaste chapitre 1, à partir du verset 12, il dit « Moi, l'Ecclésiaste, c'est-à-dire le prédicateur. Je suis devenu roi sur Israël, à Jérusalem. J'ai pris à cœur de rechercher et d'explorer par la sagesse tout ce qui se fait sous le ciel. C'est un souci fâcheux que Dieu donne aux humains comme moyen d'humiliation. J'ai vu tous les ouvrages qui se font sous le soleil. Voici que tout est vanité et poursuite du vent. Ce qui est courbé ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être porté au compte. Je dis en mon cœur, ainsi moi j'ai développé et amassé plus de sagesse que tous ceux qui étaient avant moi sur Jérusalem. Et mon cœur a vu beaucoup de sagesse et de science. J'ai pris à cœur de connaître la sagesse et de connaître la démence et la folie. J'ai reconnu que cela aussi est poursuite du vent. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de tracas. Et plus on a de science, plus on a de tourments. Vous pourrez donner ça à votre prof de sciences physiques lundi. En fait, il y a des personnes qui se disent « Bon, la vie est dure, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ma tête de connaissances. » Des geeks. Vous connaissez des geeks? J'aime bien les geeks. C'est grâce à eux qu'on a l'iPhone. Franchement, ils sont super les geeks. Mais voilà que Salomon est une personne qui a reçu une sagesse extraordinaire. D'ailleurs, c'est la seule chose qu'il ait demandé à Dieu quand Dieu lui a demandé ce qu'il pouvait lui donner. Et la Bible nous rapporte en 1 Roi 5 que Dieu donna à Salomon de la sagesse et une grande intelligence, des connaissances étendues comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils de l'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Je ne vais pas lire la suite, mais ce type-là, il vous aurait vraiment vaincu au Trivial Pursuit. S'il y avait une question qui sortait du style « C'est quoi le microprocesseur qui anime le nouvel iPad, l'iPad mini ?», il vous aurait non seulement parlé de toute l'origine du microprocesseur, qui l'a inventé, combien de puissance, quelle est la consommation d'électricité, etc., quel est l'avantage de Celeron sur Intel, Intel sur Celeron. Je ne sais même pas de quoi je parle en fait. Mais toujours est-il que c'était un type, il avait tout réfléchi et il avait des réponses sur tout. Quand vous lui demandiez quelle est la race de chèvre qui fait les meilleurs fromages, une question que vous vous êtes posée tous les matins, il vous racontait que le processus de sélection, comment il fallait depuis le troupeau de Jacob jusqu'à ceux de ses étables. Je vais changer d'illustration. Et à la fin, il remarque que franchement c'était poursuite du vent. Il y a des personnes qui se disent « la vie, elle est difficile, et parce qu'elle est difficile, je vais faire des super grandes études. » Je ne le décourage pas, hein. C'est très bien. Si vous pouvez faire de grandes des études, je crois que c'est formidable. Ce n'est pas du tout ça que je dis. Ne dites pas ensuite à vos parents « ouais, on nous a dit qu'il ne fallait pas faire d'études. » Après, moi, je me fais tuer. Hein. Ce n'est pas mon propos, en tout cas. Le propos, c'est que si, pour taire l'angoisse de la vie, tu cherches à devenir celui qui sait tout, tu auras plus de problèmes que de réussite. Peut-être tu as entendu parler de Hawking, ce grand scientifique. C'est un homme remarquable, en tout cas il est apprécié pour la profondeur de ses pensées, un athée convaincu et militant. Et, il essaye de trouver une théorie unifiée des lois fondamentales de la physique. Et il écrit dans un de ses ouvrages, « Même s'il n'y a qu'une théorie unifiée possible, ce ne sera qu'un ensemble de règles et d'équations. » Qu'est-ce qui insuffle le feu dans ces équations et produit un univers qu'elles pourront décrire? L'attitude habituelle de la science, construire un modèle mathématique, ne peut pas répondre à ces questions. Pourquoi l'univers surmonte-t-il sa difficulté d'être? La théorie unifiée est-elle si contraignante qu'elle assure sa propre existence? Ou a-t-elle besoin d'un créateur? Et si oui, celui-ci a-t-il d'autres effets sur l'univers? Et qui l'a créé, lui? En fait, avec toute sa science, il a ensuite mis tout ceci à contribution d'une théorie qui va à l'encontre de l'existence de Dieu. Plus tard, et je vous passe la citation, plus tard il montre à quel point il est convaincu qu'on n'a pas besoin de l'existence de Dieu. Sa connaissance n'a ni pu donner du sens à sa vie, ni pu répondre à ses questions les plus fondamentales qu'il vient d'évoquer. Isaac Newton a rédigé le traité le plus important de la physique de tous les temps, une physique qui est aujourd'hui un peu dépassée, mais on nous rapporte dans ses biographies que c'était un homme des plus déplaisants qui a écrasé ceux qui contestaient son talent, les humiliant jusqu'à la mort. Newton, c'était une grosse tête et un petit cœur. Et à la fin de son chemin, ça servait à rien. Ce qui est courbé ne peut être redressé, ce qui manque ne peut être porté au compte. Il y a des gens qui arrivent avec tout plein de théories, il faut plus d'éducation, il faut libéraliser la drogue, il faut faire ci, il faut faire ça pour changer le monde. Et le monde ne change pas parce que le problème, il est ailleurs. Alors Salomon, il a une idée géniale. Puisque la vie est difficile, et puisque la connaissance à laquelle il s'est donné toute sa vie n'éteint pas une angoisse de la vie, un malaise de la vie, il s'est dit, c'est le plaisir. Je vais me donner corps et âme au plaisir pour pouvoir éteindre les frustrations de l'existence. Et j'imagine que parmi nous, certains ici ont goûté ou goûtent encore ou essayent de goûter à maximiser le nombre de plaisirs dans la vie pour cesser de penser aux questions qui sont fondamentales. Et bien sûr, la quête, elle est constante. Marcel Pagnol a rédigé ou préparé un film qui s'intitule « Jazz », dans lequel il y a une sorte de professionnel qui passe sa vie à étudier un manuscrit qui, à la fin de sa vie, se révèle totalement faux, et donc il a gâché sa vie, finalement, à faire des recherches, à développer des connaissances. Et il conclut « Le but de la vie est ailleurs, et toutes les joies qu'elle nous offre sont en notre chair. » En notre chair. Et ça, je peux supposer qu'autour de toi, partout, peut-être toi aussi, il y a une recherche de plaisir pour essayer de calmer la soif de vivre. Chapitre 2, donc, de l'Ecclésiaste, à partir du verset 2 et à partir du verset 1, nous voyons une liste d'essais que Salomon a fait. Et le premier truc qu'il essaye de faire, je trouve que c'est sympa, il essaye de s'accoutumer au rire. Et c'est verset 1, il dit, j'ai dit en mon cœur, allons, je vais t'éprouver par la joie et n'arrêter ma vue que sur le bonheur, mais même cela est une vanité. Du rire, j'ai dit, c'est de la démence et de la joie, que vient-elle faire? On va s'arrêter là. Moi, j'aime beaucoup rire. Franchement, je préfère passer une soirée tranquille avec Bienvenue chez les Ch'tis, ou alors la tour Montparnasse infernale. Non, la tour infernale Montparnasse. Vous voyez ce que je veux dire? Rabbi Jacob aussi, ça c'est plus trop de votre génération. Hein. Mais je préfère passer une soirée à rire qu'à regarder La Tempête de Shakespeare, par exemple. C'est pas mon truc. Pas vous? Merci. Et en fait, je me dis que ça doit être géant, un soir, de rentrer chez soi, crever des cours, crever de son job, rentrer chez soi, claquer des doigts et voir Gad Elmaleh qui rentre. Et vous lui dites, fais-moi rire. Ensuite, Muriel Robin. Et ensuite, je ne sais pas, toutes ces personnes que l'on apprécie, Elise Moon, Anne Roumanoff ou les autres, je ne les connais pas tous. Hein. Et puis vous passez une soirée avec tous vos amis, tous vos copains, tous vos voisins, et c'est une soirée de rire. C'est pas bon ça? Le problème, c'est que le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Ben, le rire est parti, il faut continuer la journée. On a oublié toutes les blagues et tous les gags que l'on a entendus. Et puis rebolote, quoi. Et il faut continuer. Billy Graham, dans son livre « La paix avec Dieu », rapporte l'histoire d'un psychiatre britannique qui recevait un homme déprimé. Et il arrivait à rien faire avec ce gars déprimé. C'est-à-dire qu'il était déprimé de chez déprimé, mais vraiment au fond du gouffre. Alors, à un moment donné, le psychiatre, il ne savait plus quoi faire et il lui dit... Écoutez, j'avoue mon échec, je ne sais pas vous aider. Mais on dit qu'en ville, il y a un humoriste qui fait un tabac. Prenez la soirée, allez dans ce spectacle, profitez de ses talents, riez avec lui, peut-être ça vous aidera dans votre dépression. Le gars se lève, repart. Merci docteur, je suis cet humoriste. En fait... Ça me touche un peu particulièrement parce que j'étais un petit peu un rigolo. Il y en a qui disent que je suis encore. Je vais grandir un jour, mais pas encore. Mais que j'étais un petit rigolo quand j'étais au collège. Et j'habitais loin, donc je prenais le bus tous les jours. Et le bus, c'était un amplificateur de bêtises. Franchement, ça hurlait, ça criait, ça se marrait. Enfin, je vais pas dire comment c'était parce que peut-être vous êtes dans la même situation. Mais il y a un truc dont je me souviens, c'est quand je sortais du bus, soudainement, c'était le silence. Je devais marcher 500 mètres pour arriver, 800 mètres pour arriver chez moi. C'était le silence. J'étais dans la campagne, le silence. Et je me disais, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à quoi de rire, de se marrer, de s'insulter, de se tailler, de se faire du mal et du bien, je ne sais pas quoi. Et puis après, c'était le silence. Salomon, il se dit, bon, le rire, ça marche. La connaissance, ça ne marche pas. Le rire, ça ne marche pas. Troisième chose, le vin. Il a dit le vin, pas la bière. Le royaume de Dieu est français, pas belge. Je plaisante. Mais verset 3, c'était nul, hein, c'était franchement nul. Verset 3, il dit « Je me suis découvert le désir d'habituer ma chair au vin, tandis que mon cœur me conduirait avec sagesse et de m'attacher à la folie jusqu'à ce que je voie s'il est bon pour les humains d'agir ainsi sous le soleil pendant le nombre des jours de leur vie. » Le plaisir du vin, apprécier un bon vin est quelque chose que la Bible reconnaît comme possible et légitime. Premièrement, pour des vertus médicinales, 1 Timothée 5, 23. Ah bon. Mais aussi pour ceux qui souffrent alors qu'ils sont en train de mourir, Proverbe 31, 6. Mais la Bible annonce également que la première chose que nous vivrons quand Christ sera revenu, c'est un festin. Le prophète Ésaïe en parle comme un festin de vin vieux et de mets succulents. Dieu est pour que l'on apprécie un verre de vin bon, pas le verre de vin qui vient d'un truc en plastique, un bon verre de vin ou une bonne bière si vous avez l'âge, sinon Orangina. Mais le problème, c'est que quand Salomon parle comme ça, il ne parle pas de savourer quelque chose à sa juste valeur, il parle de se bourrer la face, il parle de se remplir de vin au point que l'on est contrôlé par le vin. Et le problème, c'est quand on commence à colmater la frustration de la vie par une substance, il n'y a plus de fin. Salomon est un des rares qui a survécu. Mais moi, je connais plein de gars. Ils ont commencé avec des joints et ils n'ont pas pu s'arrêter. Parce que la vie, elle est dure. Alors, après, on prend à fumer du tabac, puis ensuite on met des substances comme de la farine dedans. Ça me semble être de la farine, c'est blanc. Et puis ensuite, c'est plus suffisant, ça. Parce qu'on en fume de plus en plus, ça coûte de plus en plus cher. C'est plus suffisant. Il faut mettre d'autres choses. Il y en a qui passent à des drogues plus dures. C'est le cas de ma femme. Enfin, c'était le cas de ma femme avant qu'elle rencontre Christ. C'est plus le cas maintenant. Et le problème, c'est qu'ensuite, c'est pas suffisant. On prend du crack. Et quand on a commencé au crack, on sait plus s'arrêter. On peut plus s'arrêter. Puis après, il y a des tas d'autres choses bien pires. Et si jamais tu commences à colmater la souffrance, l'angoisse, la frustration de l'existence par des substances, ça finit pas. Et c'est de l'esclavagisme. C'est pas vrai? Je suis pas la moralisateur, en fait. La Bible est pas moralisatrice. Elle est rédemptrice. Ça fait très bien de le dire, je t'expliquerai à la fin ce que ça veut dire, c'est super important ça. La Bible, elle prend des hommes et des femmes qui se sont plantés et il les transforme. Et la Bible, elle n'est pas là pour te dire « oui, c'est nul si tu fumes ça ». La Bible est là pour te dire « en fait, tu es en train de te baigner dans une flaque d'eau quand il y a un océan qui t'attend ». Salomon, il a essayé la connaissance, il a essayé le rire, il a essayé le vin. Et puis, il y en a qui, après avoir essayé, ne savent plus s'arrêter. Dès qu'ils sont en colère avec leurs parents, dès qu'ils sont en colère avec un prof, dès qu'ils sont en colère avec eux-mêmes, dès qu'ils sont dans une situation de tension, de conflit, de crainte, la bouteille. Moi, de mon temps, dans les soirées, les gens étaient ivres-morts à 2h du matin, 3h du matin. Aujourd'hui, dans vos soirées, pas vous de votre âge, les gens sont ivres-morts à 10h. Parce que c'est binge drinking, il faut y aller à fond avec des alcools forts et il faut plus se souvenir de ce qu'on a fait. Il y a une vraie tendance là, et il y a une vraie opportunité d'élever l'étendard de la foi parce que les amis, ça ne satisfait pas. Quatrième réflexe pour faire face à l'angoisse et à la difficulté de la vie, la consommation. À partir du verset 4, Salomon dit voilà, « J'ai exécuté de grands ouvrages, je me suis bâti des maisons, je me suis planté des vignobles, je me suis fait des jardins et des parcs, j'y ai planté toutes sortes d'arbres fruitiers, je me suis fait des bassins pour arroser de leur eau une forêt de jeunes arbres, j'ai acquis des esclaves, hommes et femmes, j'ai eu leurs fils nés dans la maison, j'ai de plus été grand propriétaire de gros et de petits bétails, plus que tous ceux qui étaient avant moi dans Jérusalem. Je me suis aussi amassé de l'argent et de l'or, précieux trésors des rois et des provinces. » Le gars, il avait tout, tout. Il a fallu 7 ans à Salomon pour bâtir un temple et 13 ans pour bâtir la cité royale. Et la Bible nous dit qu'il avait 30 000 hommes de corvée pour les arbres, 70 000 manœuvres pour bouger les pierres, 80 000 tailleurs de pierres et 3 300 chefs. 185 000 personnes travaillaient à ces constructions. Moi, j'aurais bien voulu en emprunter quelques-uns pour réparer ma maison, mais en fait, à la fin, il réalise que en fait, ça ne durera pas. D'ailleurs, tout ce qu'il a bâti, ça a été détruit. Aujourd'hui, il y a des guerres sur ces contrées pour les mêmes lieux qu'il a construits. C'est assez fascinant. Rien ne subsiste, tout est vanité. Alors, c'est très probable que tu ne sois pas roi ou reine, ni de Belgique, ni de France. Et il est très probable que la question de bâtir des palais n'est pas encore premièrement ta préoccupation, n'est-ce pas? Mais il est possible que bâtir une bibliothèque de CD ou d'une bibliothèque iTunes ou des choses comme ça, ça franchement, ou bien de collection de chaussures, ou bien une collection de manteaux, de chemises, de, je ne sais pas quoi. Enfin, ça touche pas mal. Et la grande idée, je crois, de notre société, c'est de dire ça fait mal à l'intérieur, alors ce que je vais faire, je vais acheter pour me faire du bien. Ça vous arrive? Moi, je sais que si j'étais riche, franchement, c'est le truc que je ferais. J'aime bien acheter. J'aime pas du tout faire du shopping. Quand ma femme fait du shopping, c'est terrible, elle va à un musée. Moi, je vais à la chasse quand je fais du shopping. Mais moi, je vais pas au musée. Je peux pas traîner dans un magasin. Je tremble, je commence à suer. Enfin, ce n'est pas possible. Voilà. Mais je vais à la chasse. Je tire les trucs. Un jour, j'avais promis à ma fille une sortie. Elle était au bahut. Et j'aime bien sortir avec chacun de mes enfants. De temps en temps, on prend
Starbucks, on se prend un petit quelque chose, on discute, la vie est cool, c'est génial, enfin, j'aime beaucoup. Et donc je l'ai pris, je la prends à la sortie du bahut sur ma moto, et puis je dis, on avait prévu une date, quoi, enfin, une sortie ensemble, et pour aller discuter, voir comment faire le point sur sa vie, etc. Et donc je la prends sur la moto, et je lui dis, écoute, je suis désolé, je dois juste m'acheter une veste, je vais profiter des soldes, ça t'ennuie. Et dans sa tête, elle se dit, shopping, donc la sortie, c'est... Pardon, c'est mort. Et j'arrive au magasin, je rentre, je m'étais dit, je veux juste un truc gris classique. Je rentre, je vais sur les trucs gris classiques, j'en prends une, je l'essaye. J'avais à la caisse 5 minutes, 4 minutes 30. Après, j'étais sorti, j'avais payé. Elle me dit, tu fais honte à l'acte de shopping. Oui, mais j'avais battu mon bon record, et ça, j'étais fier. Bref, un sociologue du nom de Gérard Mermet écrit ceci. Écoutez, c'est super intéressant. Le réflexe d'aller faire du shopping pour oublier les soucis quotidiens n'est pas l'apanage des femmes déprimées. C'est lui qui le dit. Il concerne aujourd'hui une partie croissante de la population des deux sexes et de tout âge. La société de consommation tente ainsi à devenir une société de consolation. S'ils sont en tout état de cause favorables à la croissance de l'économie, ces achats de compensation s'accompagnent souvent de mauvaise conscience et de frustration. Ils sont en effet vécus comme une incapacité à trouver des raisons de vivre plus élevées et moins dépendantes des dimensions matérielles. C'est pas vrai, ça ? On n'a pas le sentiment que si on avait le dernier téléphone portable de chez Samsung, ça irait mieux. Si on n'avait pas un truc en plus, ça irait mieux. On a demandé à Rockefeller, qui avait pourtant bien réussi sa vie, était devenu millionnaire, qu'est-ce qui lui manquait ? 1 million de plus. C'est insatiable, les objets, pour se satisfaire. Jacques Ellul, un sage français aujourd'hui décédé, je crois, dit ceci, « Aujourd'hui, nous en sommes de nouveau là. » Il faut gagner toujours plus pour consommer toujours plus. Et sur le plan collectif, encore pire, il faut accroître indéfiniment la richesse collective pour dépenser en armement, en équipement, en routes et aéroports. Et l'on se retrouve finalement endetté et on ne sait pas comment combler les déficits de la sécurité et la dette globale d'innombrables États du monde. Je ne sais pas où est-ce que tu peux trouver je sais où tu peux trouver la satisfaction, c'est certainement pas dans le fait de consommer. Et c'est certainement pas dans le fait de réussir professionnellement pour que tu puisses à la fin dire « je suis arrivé ». J'ai un ami qui était garde du corps. Et ce garde du corps, pour lui, c'est aux États-Unis. Hein. Pour lui, le sommet de son métier, c'était de devenir garde du corps d'un président américain. Et il m'a dit, je trouvais ça fabuleux, il est venu me voir, il m'a dit « tu sais Florent, toute ma vie j'ai voulu devenir garde du corps d'un président des États-Unis. Je suis monté tout là-haut et quand je suis arrivé, j'ai vu qu'il n'y avait rien. » J'ai vu qu'il n'y avait rien. Ni la connaissance, ni le vin, ni le rire, ni la consommation. Autre quête, la sensualité. À partir du verset 8, ça peut-être ça va se rapprocher un peu dangereusement. Donc je ne vais plus parler de vous, je vais parler des autres, d'accord ? Mais à partir du verset 8, nous lisons « Je me suis procuré des chanteurs et des chanteuses ». Et raffinement pour les humains, des dames en grand nombre. Quand il parle de chanteurs et de chanteuses, il ne parle pas de quelqu'un qui chante sur la Star Academy. Il parle de gens qui font la danse du ventre, n'est-ce pas ? Il avait à la fin de sa vie 700 femmes et 300 concubines. T'imagines ça ? Le gars, c'est un pervers. Salomon a raté. C'est un pervers. C'est un gars, il ne faut pas imaginer que c'est un exemple. C'est pour ça qu'il en parle. À la fin de son chemin, il réalise que c'était du n'importe quoi. C'était du n'importe quoi. Aujourd'hui, il parlerait des nénettes sur Internet, mais là, dans cette situation, il ne parle pas de nénettes, il parle de ces femmes, de ces chanteuses qui s'est procurées en grand nombre. Écoutez ce qu'il dit, « Je suis devenu grand, j'ai surpassé tous ceux qui étaient avant moi à Jérusalem, et même ma sagesse demeurait avec moi. Tout ce que mes yeux ont réclamé, je ne les en ai pas privés. Je n'ai refusé aucune joie à mon cœur, car mon cœur se réjouissait de tout mon travail, et c'est la part qui m'est revenue de tout ce travail. » La sensualité ? Est-ce que ça calme l'angoisse de la vie ? Avoir un harem ou un harem virtuel, ça calme l'angoisse de la vie ? Est-ce que ça satisfait ou est-ce que ça frustre ? À la fin de ce chemin, on se sent bien ou on se sent connecté ? En fait, on se sent laminé, vide, en manque et creux. entre le 10 et le 13 mai 1965, était enregistrée la chanson aujourd'hui considérée comme la deuxième plus grande chanson rock de tous les temps, selon le magazine Rolling Stones. Vous savez son titre ? I can't get no satisfaction. En français, c'est j'arrive pas à être satisfait, j'arrive pas à être satisfait, j'arrive pas à être satisfait, parce que j'essaye et j'essaye et j'essaye et j'essaye et je n'y arrive pas, et j'y arrive pas. En fait, cet homme qui le chante a traîné avec à peu près toutes les filles de la planète. Aucune relation, aucune communion. Et on est fait pour une relation, pas pour un frottement d'épiderme. On est fait pour une relation. On est fait pour être en lien réel, profond avec quelqu'un. L'un des hommes les plus puissants et les plus riches du siècle présent se nomme Howard Hughes. Un homme qui a tout réussi à la manière de Salomon, sauf qu'il ne sait, qu'il n'a pas réalisé le secret. À la fin de sa vie, des femmes ont parlé de la manière dont il les traitait, parce qu'il avait, comme Mick Jagger, avait eu toutes les belles femmes d'Hollywood et tout ça. C'était un homme narcissique, parano, méchant, violent, dur, qui donnait une apparence d'avoir réussi, mais qui était esselé. Il est mort misérable. Linda LeMay chante ses paroles « Un homme de 50 ans ». Et tout ce chant est tragique parce qu'il montre que, voilà, peut-être qu'elle n'a jamais connu cet homme qu'elle recherche. Peut-être que tu connais quelqu'un qui est dans un cycle où il ne peut pas, absolument pas rester seul. Peut-être il se donne juste pour obtenir l'approbation d'un homme. Elle se donne ou je ne sais pas. Et la bonne nouvelle, c'est que Dieu nous prend tel que nous sommes pour nous transformer. Mais une chose est certaine, la satisfaction ne vient pas de la multiplicité des expériences sexuelles, sensuelles, quelles qu'elles soient. Dans la suite, Salomon continue son chemin et puis il constate que finalement toutes ces choses sont frustrantes. C'est ce que le verset 11 nous dit. Je vais essayer de raccourcir un petit peu la fin parce qu'il y a des choses à la fin que je ne veux vraiment pas louer. Toutes ces choses, elles sont un petit peu, elles nous laissent vides parce que d'un côté, elles sont frustrantes. Hein. Verset 11 nous dit « J'ai envisagé tous les ouvrages que mes mains avaient faits et la peine que j'avais prise à les faire. Et voici, tout est vanité et poursuite du vent. Il n'en reste rien sous le soleil. Il n'en reste rien. » Vous avez déjà essayé de rattraper du vent ? Vous avez essayé de garder du vent ? La poursuite de la vie sous ces pistes-là vous conduira nulle part. Juste à essayer de rattraper du vent qui vous s'échappera des doigts. Non seulement c'est frustrant parce qu'on n'arrive pas à le garder, mais en plus ça n'avantage pas, c'est ce que le verset 12 au verset 16 nous dit. Et puis ça ne dure pas, c'est ce que le verset 17 au verset 23 nous montre. Verset 17 commence, « J'ai donc haï la vie. Car pour moi, l'ouvrage que l'on fait sous le soleil est mauvais, puisque tout est vanité et poursuite du vent. Le vent l'emportera. Le vent l'emportera. » Ce chant que vous entendez de ce message-là est plutôt pessimiste au départ. Hein ? Mais c'est en même temps l'observation que font beaucoup de nos philosophes francophones, beaucoup de nos chanteurs francophones, beaucoup de nos poètes, Verlaine, Baudelaire, Rimbaud. Mais savez-vous que ces gens-là qui ont vécu l'essentiel de leur vie à essayer de développer ce genre d'activité sont morts, souvent seuls, parfois fous, rongés par la syphilis, comme Freud. Peut-être qu'on vous fait trop lire ces textes au lycée. Peut-être que ça explique pourquoi la France est le pays dont la consommation d'antidépresseurs, d'anxiolytiques et hypnotiques est deux fois plus élevée que dans les autres pays européens. Alors, quelle est la solution ? Quelle est la solution ? Ben, vous êtes prêts ? Et là, c'est pour tous, pour ceux qui sont de l'autre côté, comme pour nous. La solution, elle est géantissime. Elle est géantissime. Au verset 24, on va lire un premier refrain que l'on retrouve tout au long du livre de l'Ecclésiaste et qui nous montre la clé d'une vie saine. Une vie, pas une vie avec un grand V majuscule, juste une vie sous le soleil. une vie satisfaisante et ne se construit pas par les grands événements, les super soirées, les méga parties, les fêtes à la Facebook. D'ailleurs, se vit pas non plus selon le nombre d'amis Facebook qu'on a, se vit pas non plus sur la popularité de nos tweets. Ça se vit pas comme ça. Regardez bien ce que dit Salomon à partir du verset 24. Il n'y a de bon pour l'homme que de manger et de boire et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. Mais j'ai vu que cela aussi vient de la main de Dieu. Qui en effet peut manger et jouir sauf moi? Car à l'homme qui lui est agréable, Dieu donne la sagesse, la science et la joie. Mais au pécheur, il donne le souci de recueillir et d'amasser afin de donner à celui qui est agréable à Dieu. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Ce refrain va grandir et grandir, il trouve sa formule la plus forte, et on regardera ça demain après-midi, à la fin du livre. Mais ce que je voudrais relever, c'est le verset 24. « Il n'y a de bon pour l'homme que de manger et de boire, et de voir pour lui-même le bon côté de sa peine. » Tu sais quelle est la clé d'une vie satisfaisante, vraiment, selon Dieu, dans ce passage? C'est le quotidien de manger, de boire et de travailler. Bon, moi je pensais que c'était plus intéressant que ça, mais la réaction me surprend. En fait, on mange 2-3 fois par jour. Mais le fait est, c'est qu'on est devenu tellement dans la logique fast-food qu'on oublie le privilège que c'est. Et ce que Dieu nous propose, c'est de dire, la satisfaction, elle ne va pas venir des grands trucs parce que ça ne satisfait pas. La satisfaction, elle va venir de prendre un bon kebab et de remercier Dieu pour ce kebab. Et d'en profiter comme un cadeau de Dieu, parce qu'on est avec des amis, parce que c'est quelque chose qui va nous nourrir. La satisfaction, ça va venir d'un quotidien où on va intégrer la présence de Dieu dans nos vies et on va accepter que toutes nos activités comptent pour Dieu. Notre boulot à l'école, notre boulot sur le chantier, notre boulot à l'usine, notre boulot dans l'entreprise a du sens et je vais le prendre comme un cadeau de Dieu, même dans sa frustration. Même dans sa difficulté. Et je vais intégrer ma foi à Dieu dans tout le quotidien que je vis ici. Carpe diem. Vous connaissez cette expression? Elle est devenue populaire avec le cercle des poètes disparus. C'est une expression qui est malheureusement devenue synonyme d'un sorte d'hédonisme aveugle, sauvage, sans retenue. Mais à l'origine, c'est juste une phrase ou une expression qui veut dire « cueille le jour ». Cueille le jour. Carpe diem. Cueille le jour. C'est Horace qui est d'ailleurs un peu, pas tellement vraiment un exemple non plus, qui a écrit ce poème. Et il l'a écrit au 1er siècle avant Jésus-Christ, longtemps après Salomon. Mais quelque part, c'est exactement ce que Salomon dit. La satisfaction, quand on est en Christ, la satisfaction, c'est d'intégrer notre vie avec Dieu dans le quotidien des situations que l'on vit. Devant la frustration de la vie, il y en a qui deviennent des ascètes. Ce n'est pas la bonne solution. Il ne faut pas boire, il ne faut pas manger, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas la bonne solution. Il y en a qui, au contraire, deviennent des ogres. Ils veulent tout manger, tout boire, tout faire. Ce n'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est de considérer tout ce que nous pouvons vivre comme un cadeau de Dieu. C'est pour ça que tu peux rendre grâce dans ton cœur chaque fois que tu manges, même au bahut, même, et remercier Dieu pour le cadeau que c'est. En plus, c'est vrai que c'est un cadeau, parce qu'il y a pas mal d'endroits dans le monde où on ne peut pas manger à sa faim. C'est pour ça que, moi je vois ma fille commence des études de business, elle aime Jésus, elle est vraiment passionnée, elle aime Jésus. Première semaine d'intégration, beuverie tous les soirs. Donc elle a dit non, ça va. Donc elle s'est fait déjà une réputation grave, quoi. C'est la fille qui ne va pas aux beuveries. Elle me disait, c'était incroyable, le matin, ça sentait l'alcool juste de l'haleine des gars et des filles. Alors, au bout de 15 jours, il y a quelqu'un qui est venu la voir, il dit, mais pourquoi tu ne fais pas les soirées avec nous? Elle dit, tu sais, mon trip, c'est de m'asseoir autour d'une table avec des amis, prendre quelques verres juste et super discuter. Ça, c'est l'Ecclésiaste. Ça, c'est l'Ecclésiaste. Benabar chante la petite monnaie. Vous connaissez ce chant? Vous connaissez Benabar? Joyeux brouhaha, chaleureux chahut nous retient autour d'une table, la peau du ventre bien tendue. Les vieux finissent l'eau de vie, tandis que les jeunes mangent leur pain blanc tout en chatouillant les petits qui s'étouffent en rigolant. Les repas le midi, le dimanche midi, comme je ne sais plus qui disait, le bonheur, ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. C'est pas génial cette phrase? Le bonheur, ça se trouve pas en lingots, mais en petite monnaie. La satisfaction de la vie, c'est pas dans ces expériences multiples que nous font miroiter la société, mais en petite monnaie. Allez, je dois finir. Je vais finir avec quelques observations. La première, c'est que peut-être que ce message, il te prend avec une réalisation que tu as pris pas mal de mauvais sentiers. La bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, il prend que des gens qui ont pris des mauvais sentiers. Jésus n'est pas venu pour les bien portants, il est venu pour les malades. La seule chose qu'il demande, c'est qu'on ait l'honnêteté de dire « Je suis un malade qui a besoin de guérison, qui a besoin de pardon et de grâce. » Si ce message te prend avec le doigt rivé sur un péché qui a été dénoncé par la vie de Salomon, je t'invite juste à venir à Jésus-Christ dans la repentance. Si tu es déjà en Christ, à réaliser que le réveil, c'est lorsque le temps qui sépare ton péché de la repentance se raccourcit. Colossiens chapitre 2, verset 14, nous donne l'une des plus belles dimensions du salut qui nous vient par Jésus-Christ et qui nous montre à quel point, si tu es en Christ, il t'a pleinement, complètement, entièrement lavé. L'apôtre Paul dit, vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Bien-aimé, si tu es en Christ, Dieu veut que tu viennes à lui simplement dans l'honnêteté de tes péchés, t'en repentir et repartir. Demander à des copains de te rendre redevable. Demander à tes copains de prendre un chemin, de t'aider à prendre un chemin qui soit juste et qui soit droit. On est tous des pécheurs, on est tous des malades. Devant un Dieu saint, puissant, majestueux, il n'y a pas un d'entre nous qui peut rester le test de la sainteté de Dieu sans y laisser des plumes. Ce que Dieu veut, c'est qu'on ait le courage de l'admettre, s'encourager les uns les autres dans un chemin de repentance fréquent, régulier, qui nous conduise à une vie de plus en plus forte en lui. Deuxième remarque, c'est méfie-toi de jouer trop avec le péché, notamment si tu es en Christ. Parce que, la chasse au loup, c'est une très très belle illustration. Je connais des gens qui sont devenus comme ça, enchaînés, parce qu'ils ont commencé quelque chose, qu'ils n'ont pas su endiguer, qu'ils n'ont pas eu le courage de confesser tôt ou de demander à des amis de les aider tôt avec ceci. Une troisième mise en pratique un peu de ce message, c'est d'apprécier les joies simples du jour. Romains chapitre 1 nous dit de faire attention à ne pas confondre le créateur de la création. On adore un créateur et on use de la création. Il ne faut pas inverser, adorer la création et user du créateur. C'est génial de jouer à un jeu vidéo. C'est terrible de faire en sorte que le jeu vidéo devienne son monde. C'est génial de faire des soldes une fois. C'est terrible de vider constamment son portefeuille là-dessus en pensant qu'on va être satisfait avec cela. C'est génial, toutes ces choses dont on a parlé, à condition qu'elles soient dans le cadre pour lequel Dieu les a créées. Une autre chose qui m'a marqué en réfléchissant à ce texte, c'est que Salomon, il utilise beaucoup le « je ». Et moi, ce que je te propose dans une démarche chrétienne, c'est de dire, dès que tu adores ton propre nombril, tu ne seras pas satisfait. Et quelque part, la logique de Christ ensuite sera de dire, hey, tu aimeras ton prochain. Dès que l'on est centré sur soi et la satisfaction de soi, c'est mort. Par contre, ce que Dieu propose, c'est qu'on se préoccupe de celui qui est juste à tes côtés pour l'encourager à marcher avec Jésus. De donner ta vie pour être un témoignage pour celui qui est à tes côtés. D'avoir suffisamment de courage dans les tripes pour dire à un copain, là, ce que tu fais est nul. Je t'aime, je serai avec toi constamment. Ce que tu fais est nul. Reviens à Dieu. Et enfin, cultiver la joie du présent. Je crois que c'est Nietzsche qui disait, je ne suis pas sûr, je ne connais pas la citation par cœur, mais je crois qu'il disait quelque chose comme ça. Si les chrétiens avaient plus une gueule de ressuscité, je croirais plus en leur Dieu. Quelque chose comme ça. Je me dis, waouh ! Quand un non-chrétien, il vient dans ton groupe de jeunes, dans ton église, qu'est-ce qu'il voit ? Est-ce qu'il voit des gens qui sont satisfaits de ce que la providence de Dieu leur a donné ? Ou des gens qui sont râleurs, critiques, méchants ? Le témoignage commence par un peuple qui est reconnaissant, de ce que Christ a fait dans leur vie. Moi qui suis un pécheur de chez pécheur, j'ai été gracié. Et moi qui continue encore de pécher parfois, je suis encore et encore gracié. Je ne peux que me réjouir la grâce de Dieu et je veux le célébrer chaque fois que je suis dans un groupe, chaque fois que je suis dans un culte, chaque fois que je suis avec des chrétiens. Dieu est bon, je suis mauvais, il est bon, je suis mauvais, il est bon. Et je veux dire que Dieu est bon et je veux que ce soit un témoignage à ceux qui me rencontrent. Voilà le défi que je vous laisse. Je vous invite à la prière juste pour clore ce message. Merci de votre attention. Je suis conscient que longtemps comme ça, dans la chaleur d'un auditorium, après le repas, c'est super dur. Mais je ne sais pas combien de temps je vais avoir entre les deux sessions, mais si jamais tu veux parler, parle soit avec tes responsables de groupe de jeunes, soit avec, bon, je vais être là un petit peu ici pour prier si nécessaire, mais laisse pas ce message, s'il t'a percuté, pas donner une suite concrète à ce qui est dit pour relancer une marche vers Jésus. On prie ? Dieu et Père, nous nous humilions parce que c'est facile de pointer du doigt Salomon et ses fautes et ses péchés et ses erreurs. Mais Seigneur, un grand nombre de ses fautes à lui sont les miennes. Si ce n'est en acte, au moins en attitude et en pensée. Seigneur, je suis bouleversé jour après jour de pouvoir revenir à la croix, pouvoir réaliser que je suis un homme au bénéfice de cette grâce si immense qui vient en Jésus-Christ. Et je prie pour tous les jeunes, particulièrement cet après-midi, qui sont dans la fournaise de la tentation souvent, dans un environnement hyper agressif par rapport à leur foi. Je te prie pour qu'ils aient un cœur renouvelé pour toi, qu'ils réalisent que certains fondements sur lesquels ils ont compromis ou autres sont des fondements très fragiles qui vont les blesser finalement. Je prie que tu apparaisses comme celui qui satisfait et rassasie. Augustin disait, tu nous as fait pour toi, Seigneur, et nos cœurs sont sans repos jusqu'à ce qu'ils ne te connaissent. Et je prie, Père, que chacun ici puisse réaliser que tu es le trésor qui rassasie, tu es le pain qui nourrit, tu es la vie elle-même, Seigneur Jésus. Je prie que ta grâce brise nos cœurs, brise nos résistances et nous conduise à une vie qui te plaise, une vie qui soit centrée sur ta personne, ta sainteté, ta grâce, ta majesté. Merci de redonner de l'espérance à ceux qui ont le sentiment qu'ils sont allés trop loin. Merci de renouveler le cœur et l'ardeur de chacun d'entre nous. On a tellement besoin de toi. Au nom de Jésus.